Je sais bien, chers auditeurs, que vous attendez la rubrique suivante avec impatience et même avec une certaine gourmandise. C'est votre petite préférée. Et j'ai bien l'impression qu'autour de ce micro, on l'affectionne aussi, tout particulièrement. C'est bien sûr la rubrique polémique dont je veux parler. Et j'en connais une qui ne voudrait céder sa place sous aucun prétexte. C'est Marie, qui n'a même pas peur d'exprimer ses réactions face à Clément et Philippe. Allez Marie, je sens bien ton impatience d'en découdre. Certaines questions, comme la petite souris du titre de notre émission, te trottent dans la tête. À quoi servent ces dispositifs? Pourquoi m'y engager? Pourquoi y consacrer tellement de temps et d'énergie?
Oui, écoute Serge, je suis professeur de français avant toute autre chose et je tiens à le rester. Ces dernières années, l'éducation nationale a multiplié les dispositifs qui créent, soi-disant, une ouverture sur les enseignements purement disciplinaires. Baliverne ! Ce que je constate, c'est qu'à première vue, nous avons déjà fort à faire dans nos classes pour mener à bien nos programmes. J'ajouterais même qu'il devient impératif, à mon sens, de faire en sorte que les collégiens sortent de leur cycle avec les outils nécessaires à leur formation future, quel que soit le choix d'orientation envisagé, et que les lycéens deviennent maîtres dans l'analyse littéraire. Alors franchement, Philippe et Clément, que peut bien apporter un professeur de français dans un dispositif transversal?
Ah Marie, Marie, ma très chère Marie, je te trouve ambitieuse et j'aime bien cela. C'est pourquoi je vais me permettre de prendre à contre-pied ton point de vue et te proposer de mettre les différents dispositifs qui existent au service de ta discipline. Comme une sorte de temps supplémentaire où tu pourrais travailler de manière différente, tant dans la forme que dans les supports choisis. Pourquoi ne pas considérer ces temps d'enseignement comme une parenthèse pédagogique où l'on montrerait aux élèves comment travailler autrement? On y laisserait parler leur inventivité, leur créativité. On utiliserait des outils différents.
Effectivement, je pense également qu'il ne faut pas opposer contenu disciplinaire et dispositif interdisciplinaire. Au contraire, il est tout à fait possible et recommandé, Marie, de lier ces deux aspects. Comme l'a dit Philippe, afin de renforcer créativité et inventivité chez tes élèves, afin d'endiguer une possible tentation de la routine dans tes pratiques, mais aussi afin de donner davantage de sens à tes apprentissages. Par exemple, rien ne t'empêche de faire intervenir le professeur principal d'une de tes classes ou le professeur de technologie, qui est souvent rompu à ce genre d'exercice, dans le cadre d'un cours de soutien, afin de faire travailler tes élèves sur les lettres de motivation, pour les faire travailler sur le genre épistolaire tout en raccrochant du sens et tout en faisant naître davantage d'intérêt à cet apprentissage. Il suffit de leur faire rédiger une lettre de motivation au brouillon que tes élèves peuvent ensuite proprement taper et imprimer. Ou mieux, tu peux aussi utiliser une lettre de motivation d'un élève que tu projetteras au tableau et que tout le monde se chargera d'améliorer par retouches successives en faisant circuler le clavier et la souris d'une table à l'autre. Cela créerait d'autant plus un climat d'entraide au sein de ta classe. Mais bien sûr, de tels procédés peuvent être étendus et adaptés à d'autres dispositifs comme les PPRE.
Ah, les fameux programmes personnalisés de réussite éducative. Un intitulé qui en met plein la vue, vous ne pensez pas? Il donne même l'impression à l'entendre que nos élèves en difficulté vont tous réussir. Encore faudrait-il leur en donner véritablement les moyens. Ce dispositif apparaît essentiellement en sixième, mais sur un temps très court, pendant lequel le professeur de français, entre autres, est censé apporter remédiation à l'ensemble des difficultés rencontrées par l'élève depuis le début de sa scolarité. Comme si le collège était un château magique. Vous en connaissez, vous, Philippe et Clément, sérieusement des élèves à qui a profité le PPRE?
Il suffit de faire en sorte que Marie devienne la bonne fée qui sort de son château. Alors là où je partage ton opinion, c'est qu'il n'y aura pas de coup de baguette magique. La plus-value des PPRE réside uniquement dans la pédagogie que proposera l'enseignement, notamment à travers un terme très pompeux, la métacognition. Je m'explique sans me réfugier derrière la phraséologie. Le PPRE est un moment où le professeur peut prendre le temps de demander à l'élève de formuler sa réponse, et surtout le processus qui lui a permis de la formuler. C'est souvent par un oral plus abouti et plus fin que le maigre temps, tu en conviendras, mis à disposition en classe, nous le permet, que viendra une aide décisive. En outre, je parlais tout à l'heure de varier les supports. Le PPRE est indéniablement une opportunité à saisir pour proposer des supports innovants. Ainsi, la cartéristique, dont j'ai déjà parlé à ce micro, elle pourra permettre à un élève de mieux appréhender sa leçon de grammaire, de mieux rendre compte d'une lecture analytique, mieux de préparer un véritable brouillon. Allez, essaie, je suis certain que tu ne seras pas déçu.
Mais oui, et l'on pourrait multiplier les exemples. Marie, je te renvoie également à ce que l'on disait il y a quelques minutes, Serge et moi, à propos du tremplin, dispositif mis en œuvre dans mon collège et dont la structure permet, entre autres choses, de faciliter les recherches et les contributions sur Internet. Or, l'utilisation de ce genre de support peut rejaillir de manière tout à fait positive sur la motivation et l'attitude de l'élève face au savoir.
Bon, en effet, je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Mais, Philippe et Clément, que pensez-vous dans ce cas de la découverte professionnelle 3 heures qui a été instaurée au collège à la rentrée 2005? En soi, je dois reconnaître que l'idée est intéressante. Apporter aux élèves une première connaissance du monde professionnel par une découverte des métiers, du milieu professionnel et de l'environnement économique et social. Mais concrètement, dans les faits, je trouve que ce n'est rien d'autre qu'un effet de mode. D'ailleurs, pour justifier en partie l'intérêt de la DP3, l'éducation nationale a ajouté aux exigences de formation de l'élève le fameux PDMF, Parcours des métiers et des formations, que les enseignants doivent aussi, en plus de leurs cours, intégrer dans leur enseignement. Et puis quoi encore? On va se transformer en chef d'entreprise? En manager? Expliquez-moi, Philippe et Clément, s'il vous plaît, ce que viendrait faire un professeur de français dans un dispositif tel que la DP3, plutôt technique. Je ne vois pas vraiment quel rôle je pourrais y jouer, à part peut-être le mauvais rôle une nouvelle fois, celui qui reprend et corrige à tout va tout vent les indignes erreurs de langue.
Ouais, alors attends, excuse-moi, tu ne seras celle qui se contente de corriger que si tu le souhaites. Pour ma part, je préfère me voir comme celui qui enseigne non une discipline, mais la maîtrise d'un vecteur essentiel de communication, tant à l'écrit qu'à l'oral. De ce fait, en DP3, j'apprends aux élèves à se présenter, à argumenter pour obtenir un emploi, à lire un contrat de travail. Je leur apprends les règles de communication. J'aime d'ailleurs beaucoup utiliser PowerPoint pour cela, mais sans les rendre stupides. Rappelle-toi le titre d'un ouvrage dont nous avons déjà parlé. Je leur montre de quelle manière on peut travailler ensemble, comme cela est demandé en entreprise, et de quelle manière manipuler des outils collaboratifs, comme un wiki, ou les articles d'un réseau social, mais cette fois-ci professionnel. Bref, je leur propose un contenu que mon temps en classe ne me permet pas d'aborder, sans rien renier de ma discipline, mais en la plaçant dans des tâches complexes. Oups, excuse-moi, le socle commun réapparaît, qui seront celles de leur vie de tous les jours.
Mais oui, Philippe, leur vie de tous les jours, là je te rejoins. Car cela me semble important aujourd'hui que l'école donne des outils aux élèves pour se construire leur identité. Mais qu'allez-vous me répondre au sujet de l'histoire des arts? On est loin de la vie de tous les jours, non? En quoi un professeur de français serait-il plus concerné par ce projet qu'un professeur de langue ou un scientifique? Après tout, si l'on regarde l'intitulé, il y a peu de place pour les lettres. Qui considère aujourd'hui que la littérature est un art à part entière? Et l'on me serine qu'il faut qu'en classe, j'ai le temps d'étudier, d'analyser et de commenter des œuvres picturales, par exemple. Et puis quoi encore? C'est le travail du professeur d'art plastique, pas le mien. Je veux consacrer mon temps à l'étude de la langue, à la compréhension texte, à l'expression orale et à l'écriture. Le programme me semble déjà vaste. Je suis un professeur de français et ma place n'est pas là.
Marie, il me semble que ta conception de la littérature est partant de notre discipline et quelque peu étriquée. Car la littérature est bel et bien un art. D'ailleurs, elle entretient de multiples rapports avec les autres formes artistiques. Concrètement, dans nos classes et par l'intermédiaire de l'IDA, il peut être intéressant de travailler sur le rapport entre une œuvre littéraire et son adaptation cinématographique. Du Shining de Stephen King et de Stanley Kubrick pour le collège, jusqu'aux Liaisons dangereuses de Chauderlot de la Clos et de Stephen Frears pour le lycée. En dehors de l'étude du sens, qu'on n'abordera pas de la même façon d'une discipline à l'autre, chacun ses méthodes d'analyse. Ces rapprochements peuvent aussi t'offrir l'opportunité de travailler sur les notions de point de vue. Avec l'aide d'un vidéoprojecteur, tu peux mettre en évidence, et de façon beaucoup plus claire, cette notion complexe.
Ah, bien dit, mon cher Clément. Et j'irai même un peu plus loin. En fait, je crois que Marie, tu t'enfermes dans une position de négation totale et que tu oublies la véritable nature de notre discipline. Pour compléter ce que dit mon cher collègue, et tu le sais comme moi, ce que l'on reproche avant tout à nos élèves, c'est de ne pas mettre les textes en perspective par rapport à un contexte historique, politique, économique ou social. Un site comme l'Histoire par l'image t'apporte cette dimension et permet une approche des textes beaucoup plus riche. Un autre exemple, si tu le souhaites. Comment des élèves peuvent-ils comprendre le poème d'Aragon, chanté par Léo Ferré, s'ils ne connaissent pas l'affiche rouge et le commando Manoukian ? Comment peuvent-ils mesurer la portée émotionnelle de ce texte ? Comment peuvent-ils comprendre les motivations de ces hommes que l'on a voulu faire passer pour des terroristes et que la libération a réhabilité ? Comment ? Eh bien, en leur faisant visionner sur le site de l'INA deux vidéos qui reprennent le journal télévisé, l'une sous l'occupation, l'autre après la libération. Même format, même voix nasillarde que nous connaissons tous, mais un discours radicalement différent. Ne pourrais-tu alors, ma chère Marie, leur faire mieux comprendre ce qu'est la subjectivité d'un point de vue et beaucoup d'autres choses en matière d'argumentation ?
Ah, Philippe, je crois maintenant lire dans le regard de Marie un soupçon de curiosité, mais à peine voilé par une sorte de dépit rageur. N'ayant plus d'arguments au sujet des dispositifs que l'on a déjà évoqués, tu vas voir qu'elle va maintenant se scandaliser à propos de la réforme du lycée.
Eh bien, figurez-vous que j'osais à peine en parler, justement, de cette réforme du lycée. Il faut dire qu'elle ne me semble pas du tout pertinente. La nouvelle seconde a institué 2 heures consacrées à l'accompagnement personnalisé. Alors les lycéens sont tellement accompagnés que les enseignants ne savent même pas quelles sont les attentes de ce dispositif. D'après les textes, ce dispositif inclut plusieurs activités. Un soutien aux élèves qui rencontrent des difficultés, un approfondissement des connaissances ou une autre approche des disciplines étudiées, une aide à l'orientation qui s'appuie sur le parcours de découverte des métiers et des formations. Dans les faits, ces 2 heures se transforment rapidement en une forme de soutien classique, car de toute évidence, et cela se confirme très souvent, les élèves en sont demandeurs. Il n'y a qu'à voir leurs lacunes à l'entrée du lycée pour le constater.
Voilà, tu t'emportes, hein. Tu risques de devenir atrabilaire. Une bonne petite saignée ? Non, plus sérieusement. Nombre d'élèves ont besoin d'aide au cours de leurs études, et peu importe le nom que cela prend. C'est bien l'enseignant qui donne un sens à cela par le contenu qu'il développe. Je te donnerai à ce titre un seul exemple. Comment préparer des élèves de lycée à l'oral de l'EAF de manière régulière et ainsi les amener à maîtriser une épreuve très difficile ? Notre collègue, Jean-Luc, ici présent, a une réponse. Il fait travailler ses élèves à partir du logiciel Audacity. Ceux-ci préparent leurs textes, enregistrent leurs prestations et l'évaluent avec une grille de critères avant de soumettre le tout à leur enseignant et à leur père. L'enregistrement est ensuite déposé sur le site de l'établissement pour constituer une base de données, tant pour l'enseignant qui peut ainsi mesurer les progrès effectués par chacun, que pour les élèves qui peuvent les utiliser librement pour réviser, et même, je dirais, pour les parents pour lesquels l'épreuve est ainsi dédramatisée. Bien entendu, cela demande une réflexion en amont, une préparation précise, mais alors quelle plus-value pour les élèves ?
Bon, et enfin, Philippe et Clément, que dire de ce merveilleux intitulé littérature et société dans les choix d'enseignement d'exploration. Cela me laisse presque sans voix, tellement il englobe tout et n'importe quoi. Cette fois encore, les textes officiels sont flous, laissés au hasard du bon vouloir des enseignants. Mais il y en a assez de cette manie à vouloir faire de l'école une vitrine plutôt qu'un âtre de savoir et de compétences disciplinaires claires et organisées.
Bon, Marie, je comprends ton dépit. Après tout, il n'est pas simple de se dire que les outils que l'on avait construits ne sont plus aussi efficients qu'auparavant. Mais l'innovation qui peut émerger de ce flou dont tu parles, et que je nommerais plutôt, moi, sans exagérer, liberté pédagogique, qui a fait ses preuves depuis longtemps, eh bien l'innovation pédagogique qui peut être générée par un tel projet va créer des situations d'apprentissage extrêmement intéressantes, tant pour les élèves que pour les professeurs. Tu nous parles de l'enseignement d'exploration, littérature et société, comme si la littérature se bornait au Mallarmé, le Comte de Lille et autres partisans de l'art pour l'art. Mais, si intéressante soit-elle, la littérature ne se réduit pas à cette posture d'écrivain résidant dans sa tour d'ivoire, à cette phase de repli sur elle-même dont parle William Marx dans son ouvrage « L'adieu à la littérature ». Non, la littérature se doit de vivre encore, grâce au contact qu'elle peut entretenir avec la société. Faisons découvrir à nos élèves, par l'intermédiaire de cette option et de quelques événements, comme la semaine de la presse, que la littérature est toujours vivante. Plus concrètement encore, faisons-leur rechercher, en salle informatique, quelques articles de presse en ligne, traitant des très récentes révolutions arabes, et faisons-les analyser les liens que ces articles entretiennent avec les pensées des Lumières ou des Pictets, en passant par Brassens et en revenant vers la Boétie. Faisons-les créer un PowerPoint pour réinvestir les connaissances qu'ils ont acquises par le biais de ce dispositif. et pour nous assurer qu'ils savent aller à l'essentiel dans un monde regorgeant d'informations diverses. Ou plus simplement, servons-nous de ce dispositif pour mieux étudier l'argumentation ?
Mais tu sais, Marie, je crois que c'est peut-être le point où je te rejoins le moins. L'intérêt majeur de notre discipline réside dans le fait que la littérature est un miroir de la société, ce qui lui vaut également sa complexité, car bien appréhender une œuvre revient à en connaître le contexte politique et social, nous le disions tout à l'heure. En témoigne le magnifique atelier Bovary qui est proposé par l'université de Rouen et qui montre à quel point Flaubert était à l'écoute de son siècle et en rendait compte dans son œuvre. Mais ne nous éloignons pas du sujet. Je te propose un autre exemple. Attention, Wikipédia. Ah, je te sens déjà bouillir au plus profond de ton être. Wikipédia, le diable incarné qu'il faut refouler le plus loin possible de nos chers élèves. Eh bien moi, je te dis non. Tout d'abord parce que la bataille est perdue. L'encyclopédie collaborative fait partie de leur pratique et je ne mène que les batailles que je peux gagner. En revanche, leur proposer une réflexion construite sur les règles et les objectifs qui ont donné naissance et préside à l'existence de Wikipédia me semble un point de vue intéressant. D'autant plus si l'on compare cet outil avec celui de Diderot et d'Alembert. Le projet est-il le même ? En quoi Wikipédia présente-t-elle un miroir de notre société, de notre manière d'appréhender l'information, de notre relation au temps ? Qu'est devenu le statut de l'auteur, l'auteur garant de son propos ? Tu le vois, à mes yeux, littérature et société ne forment qu'une même identité, comme le disait Louis de Bonald, qui pourtant n'était pas connu pour des idées particulièrement novatrices. La littérature est l'expression de la société, comme la parole est l'expression de l'homme.